Comme Michel l'a déjà dit, nous sommes encore dans la campagne, une espérance qui nous transforme. Et nous en sommes à la troisième semaine, le début de la quatrième semaine, pardon, et c'est la dernière prédication pour la campagne, mais elle n'est pas finie pour autant, donc jusqu'à samedi, il y a des méditations personnelles, et comme l'a dit aussi Michel, elles étaient toujours très intéressantes, mais celles de cette semaine prochaine, j'ai déjà tout lu aussi, comme Michel, elles sont vraiment bien. Donc continuons, et puis après, il y a une conclusion qui est aussi très bien faite, avec des questions qui viennent résumer, et qui sait, peut-être que dimanche prochain, on en parlera, on verra. Mais donc cette semaine, le thème, c'est la prochaine étape. On se la pose, cette question, quand on est un peu à un carrefour de sa vie ou quand quelque chose se termine ou quelque chose devrait commencer après. Et je ne sais pas si les disciples se sont posé cette question, quelle est la prochaine étape pour nous après la résurrection? Alors qu'ils sont à un carrefour de leur vie, ils ont vu Jésus pendant un certain nombre de jours. Et ils n'ont pas encore fait grand-chose de leur vie, si ce n'est passer du temps avec lui. Et tout à coup, ils posent un peu cette question étrange, mais légitime pour des Juifs de l'époque qui n'avaient un peu que Israël en tête. « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Une question légitime peut-être, mais quand même très centrée sur leur petit monde. Et Jésus ouvre. Et Jésus répond en ouvrant sur le monde entier. « Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il est intéressant que la question des disciples portait sur le « tu ». Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras, toi Jésus, tu rétabliras le royaume d'Israël, et que la réponse de Jésus porte sur le « vous ». Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. On passe du « tu, toi, Jésus » au « vous », les disciples qui seraient mes témoins, les auteurs de cette belle histoire de témoignage, ce sera vous, ce sera toi. Vous serez mes témoins. Une énorme mission, mais on n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et pour les disciples, ce sera quelques jours plus tard, à la Pentecôte, qu'on appelle l'effusion de l'Esprit, et l'Esprit continuera son œuvre tout au long du livre des Actes, 62 fois le mot Saint-Esprit dans le livre des Actes, un incontournable, on aurait pu appeler le livre des Actes, non pas des apôtres, mais des Actes du Saint-Esprit. Et cet Esprit est appelé une puissance. Et j'aime revenir au mot grec, une fois n'est pas coutume, pour parler de cette puissance qui se dit en grec « dynamis », qui a donné « dynamique » ou « dynamo ». Et au lieu de parler de la puissance qui fait penser à des gros muscles ou des grosses voitures avec des moteurs puissants, j'aime parler plutôt de « dynamique », l'esprit comme étant une dynamique du témoignage, celui qui va donner du souffle, ou qui va donner un élan pour des témoins un peu statiques, un peu fragiles que nous sommes. Pierre, qui se relève tout doucement de ses trois reniements de Jésus, après avoir reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, va faire un discours à la fois risqué et percutant, le discours de la Pentecôte. Et il va dire à la foule qui est là, de juifs ou de prosélytes, qu'ils ont crucifié Jésus, mais qu'il est ressuscité et qu'il est le témoin de cette résurrection. Il prend des risques, mais le Saint-Esprit lui donne un élan extraordinaire. Il lui donne des ailes comme Red Bull, la boisson énergisante. Et puis au chapitre 4 du livre des Actes, et là aussi c'est intéressant, Pierre revient du grand conseil du Sanhédrin où il a été interrogé. Et il revient et il retrouve les autres dans Actes 4, 31. Et ils se réjouissent tous ensemble et ils prient tous ensemble. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, ils avaient déjà l'Esprit, puisque la Pentecôte, c'était quelques jours avant. Mais là, il s'agit d'autre chose, d'un remplissage du Saint-Esprit, comme il est dit, comme Paul le dit aux Éphésiens, ne soyez pas, ne vous enivrez pas, il paraît qu'il faut dire ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et on pourrait traduire également, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est un impératif présent qui désigne une action continue. C'est continuellement qu'on veut être rempli du Saint-Esprit. Ils sont donc remplis, le lieu où ils étaient trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit, et qu'est-ce qui se passe? On s'attend à des choses spectaculaires, à des miracles, à qui mieux. Mais que se passe-t-il dans cette pièce? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de faire ce lien entre le Saint-Esprit et le témoignage. On s'attend parfois à des choses spectaculaires. Eh bien, tranquillement, le Saint-Esprit nous appelle à témoigner. Autre question que l'on pourrait se poser, témoin de qui, témoin de quoi ? Dans Actes 2, Jésus dit « Vous serez mes témoins, les témoins de Jésus ». Mais encore, quand on étudie un peu le livre des Actes, on s'aperçoit que qu'il est question d'être témoin de la résurrection de Jésus. Pierre, dans son discours de la Pentecôte, dont nous venons de parler, parle 4 fois de la résurrection, au verset 32 en particulier. « Dieu a ressuscité des morts ce Jésus que vous avez crucifié », il le dit plusieurs fois, « mais il l'a ressuscité des morts, il est ressuscité et j'en suis le témoin, nous en sommes tous témoins ». Et Paul, après lui, dans Acte 17, s'adresse au monde grec, à l'Areopage, et va parler de quoi ? Va annoncer quoi de Jésus ? Il va annoncer la résurrection de Jésus. Alors à ces mots, il y a certains qui se moquent, certains grecs qui se moquent, d'autres qui s'en vont, on t'entendra là-dessus une autre fois. Il y en a quand même quelques-uns qui ne se moquent pas et qui ne s'en vont pas, qui continuent à écouter Paul et qui se donnent à Jésus, mais quand les apôtres témoignent de Jésus, ils parlent de la résurrection. Témoigner de la résurrection, c'est témoigner de tout l'événement de Pâques, cette mort tellement particulière, cette mort pour nos péchés, cette mort à notre place, cette mort où Jésus prend sur lui, cette mort où Jésus paye à notre place, on appelle ça la substitution à ma place. Et puis cette résurrection qui est également extraordinaire, qui est tout autant particulière que sa mort, témoigner de la résurrection, c'est témoigner de la vie, de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire de la vie, de la lumière sur les ténèbres, sur les impasses où nous étions sans Jésus, sans Dieu. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Témoigner de la résurrection, c'est donc aussi témoigner de l'espérance. Témoigner de l'espérance qui est en Jésus-Christ, de cette espérance dont on parle depuis 3 semaines et qui transforme la vie et qui pourrait transformer la vie de ceux qui nous entourent, si nous en sommes les témoins. Les témoins de cette espérance. Alors il y a un texte que j'aime bien et que je vous livre non pas parce que je l'aime bien seulement, mais parce que je pense qu'il est d'occasion et il concerne l'espérance. C'est Pierre qui s'adresse aux chrétiens dans la dispersion et qui dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect ». Alors c'est un peu différent que le livre des Actes, pourtant c'est le même homme qui parle, celui qui a fait le discours de la Pentecôte, et puis celui qui écrit la première lettre de Pierre. Il nous dit ici d'être prêt à défendre, à se défendre de l'espérance qui est en nous. Il faut dire qu'au temps de la première lettre de Pierre, la persécution commence à arriver, que les chrétiens sont des groupuscules dans le puissant empire romain. On n'est plus dans l'effervescence du début. Pierre est un peu plus vieux, les circonstances ne sont pas complètement les mêmes, mais le Saint-Esprit est toujours là et la dynamique du témoignage se poursuit, mais peut-être d'une autre manière. Il s'agit de répondre à quelqu'un qui pose une question sur l'espérance qui est en vous. Le texte français que vous avez affiché suit de près le grec et parle de défendre. Mais moi, je l'aime pas trop parce que ça donne l'impression d'être sur la défensive. Je vais me défendre. C'est pire, il y a une traduction qui utilise le mot « justifier ». Vous justifiez de l'espérance qui est en vous. Wow, c'est pire, comme je le dis. Et il me semble, pour une fois, j'ai consulté la version anglaise qui parle simplement de répondre. Answer. De répondre à ceux qui posent question par rapport à l'espérance qui est en vous, à ceux qui se questionnent, à ceux qui vous interrogent par rapport à l'espérance qui est en vous. Parce qu'ils ont vu chez vous, si vous êtes chrétien porteur d'espérance, quelque chose peut-être d'un peu différent qui les interroge, qui les interpelle. Alors on est prêt à répondre. On se prépare peut-être pour le faire, mais on ne provoque pas non plus, on n'est pas agressif, certainement pas. Une autre version dit « rendre compte », soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et rendre compte, c'est faire un compte-rendu de la façon dont cette espérance en Jésus-Christ transforme les vies. Et on le fait sans chercher à convaincre à tout prix, ni chercher à séduire, mais tout simplement, en toute douceur et respect, voilà ce qui m'est arrivé en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Répondre aux questions sur l'espérance qui est en vous, parce que les gens posent des questions. Moi, je vous ai déjà parlé de mon coiffeur. Ça fait 5 fois, enfin non, depuis 4 ans, je vais toujours chez le même coiffeur, et à chaque fois, on parle de la foi. Mais cela peut être aussi au travail, autour de la machine à café, au-dessus de la haie, avec le voisin, les connaissances avec qui on fait du vélo ou du jogging ou du longe-côte, ou même de la natation. On peut parler, enfin, les femmes peuvent parler quand elles nagent, la brasse, là. Enfin, moi, je l'ai vu. Nous, on n'y arrive pas, les hommes, mais vous y arrivez à discuter en faisant des longueurs. Il y a peut-être des questions qui se posent sur la guerre en Ukraine, sur les événements, sur l'éducation, sur les grèves SNCF, sur l'évolution du monde, avec cette question qui arrive parfois. Et vous, qu'en pensez-vous? Il y a tant de moments propices où, sans s'imposer le moins du monde, nous sommes au contraire invités à expliquer avec douceur et respect, à expliquer, oui, ce qui nous anime profondément. On peut être à tout moment, comme dit quelqu'un, convoqué pour témoigner. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on est prêt à répondre avec douceur et respect à cette question? Et je lisais sur Internet que c'est un véritable service que nous rendent, sans le savoir, ceux qui nous convoquent ainsi au témoignage. Car l'espérance, notre espérance, grandit lorsqu'elle est annoncée. Augustin disait, lorsqu'elle est partagée, elle augmente. C'était un commentaire de la multiplication des pains, qui symbolise pour saint Augustin la parole. Lorsqu'elle est partagée, elle augmente. L'espérance grandit lorsque nous la partageons avec d'autres, parce qu'il faut trouver des mots pour la dire, parce qu'elle nous oblige à revenir à notre propre histoire, à accepter aussi le regard critique des autres sur ce que nous avons cru, et à fonder donc plus solidement notre espérance. Espérer pour annoncer, annoncer pour espérer. Notre espérance se renforce quand nous en témoignons dans ce monde désespérant et qui désespère. Et puis, témoins où ? Jésus donc va leur parler du terrain d'action et ce champ d'action n'est pas juste Jérusalem, le centre du monde pour les disciples, un endroit quand même assez sécurisant pour eux, mais aussi la Judée un peu plus loin, la Samarie, où ça se complique un peu parce que c'est pas la même culture, c'est pas la même théologie, et puis après le bout du monde, les extrémités de la terre, c'est-à-dire peut-être Rome, même l'Espagne, en tout cas des gens remplis de païens, sans que ça soit péjoratif, mais des gens culturellement, religieusement, complètement différents de ces juifs devenus chrétiens. Jésus élargit faveusement l'horizon de ses disciples. Alors on a déjà beaucoup parlé de ces cercles concentriques qui va du plus proche au plus éloigné, mais il faudrait parler aussi des cercles excentriques qui vont vers l'extérieur. Et cet appel à devenir des témoins de Jésus dans le monde est un appel à voir plus loin, un appel au large, un appel à l'ouverture. Et ce début de livre des Actes est un appel à se mettre en route parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est mort et ressuscité, parce que nous sommes debout sur le socle de son amour et de son pardon manifesté à la croix, parce que nous sommes bien ancrés dans l'espérance de sa résurrection. Il nous met en route pour être des témoins jusqu'au bout du monde. J'ai lu une enquête dans Télérama il y a quelques années sur les 16-25 ans et j'ai lu cette phrase qui m'a sauté aux yeux. Il paraît que leurs parents, à l'époque, mes enfants avaient dans ces eaux-là, donc je dis les parents, les cadras, les quinquas d'aujourd'hui, leur passent ce message suivant, je lis. Faites ce que vous voulez, ils s'adressent à leurs enfants. Faites ce que vous voulez dans la vie, mais ne prenez pas de risques. C'est le message que les parents, et que peut-être nous, j'en sais rien, nous laissons à nos enfants, on ne s'en rend pas compte, mais je veux bien croire que c'est le genre de message que l'on peut transmettre à nos enfants, et peut-être même de plus en plus aujourd'hui. Ne prenez pas de risques parce qu'on veut les protéger. Mais en même temps, on transmet une sorte de peur du monde, une peur de l'extérieur. Mais notre Père qui est dans les cieux nous donne un autre message. Faites ma volonté parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite, et puis prenez des risques pour moi. Mettez-vous en route pour moi, et avec le Saint-Esprit. Prenez des risques et allez même jusqu'au bout du monde, jusqu'à Vierzon même, au centre de la France, car là, où vous irez, j'y serai aussi. Et je serai avec vous, et vous ne le regretterez pas. Comme Josué, dont Michel nous a parlé, qui doit traverser le Jourdain pour aller dans le pays promis. Prends des risques. Et puis je me risque à donner quelques illustrations, applications quand même, pour ces cercles excentriques. Premier cercle. Jérusalem, ou la famille. Être témoin dans sa famille. C'est un endroit un peu sécurisant, la famille, que l'on présente souvent comme sécurisant, mais ce n'est pas si sécurisant que ça. Dans la famille, il y a des histoires. Il y a des histoires de famille. Il y a des émotions partagées. Et puis dans la famille, on connaît les faiblesses, les failles des uns des autres, et puis les miennes en particulier. Je vous raconte une histoire. C'était à Bruxelles, on était encore à Bruxelles, j'avais 34 ans, et là j'assiste à l'enterrement du père de mes amis Marc et Erwin Oxenmeier. Vous avez vu Marc Oxenmeier en septembre, le couple allemand qui était ici. Et son père était complètement athée. Et j'ai vécu là l'enterrement le plus triste de ma vie. Il faisait froid, il y avait du vent, il avait décidé de se faire incinérer et de disperser les cendres dans le cimetière, ce que celui qui officiait a fait. Et le coup de vent a dispersé les cendres sur les sœurs de mes amis Erwin et Marc. Personne n'a dit un mot pendant toute la cérémonie. Après, on s'est vu on s'est tous retrouvés dans un bar à Skarbek, à boire de la bière et à manger des sandwichs au jambon et au fromage. Et j'ai pensé à ma sœur Pascal, à ma sœur aînée. Moi, je suis le troisième avec deux sœurs aînées, qui est 6 ans d'écart, qui n'était pas chrétienne. Alors je me dis, en voyant ce, je me dis, il faut que je témoigne, il faut que je dise quelque chose, ça ne peut pas durer. Et quand on a 6 ans d'écart avec sa sœur, on se sent un peu un gamin toujours. Quand j'avais 12 ans, elle en avait 18, donc on avait assez peu de relations, j'ai toujours été un petit gamin, et donc avec peu d'assurance auprès de ma grande sœur. Mais là, je décide de témoigner auprès de ma sœur. Elle habitait avec son mari en Allemagne à l'époque, à Wiesbaden. Et donc de Bruxelles, on a trouvé une occasion pour aller leur rendre visite, et là, je me suis dit, je vais témoigner à ma sœur. Et je prépare mes phrases. Et on est sur la terrasse, avec un deck en bois, je suis assis sur une chaise en tissu, et je prépare ma phrase, et je lui dis, Pascal, est-ce que... Et là, il y a un avion qui passe, 100 mètres ou 200 mètres au-dessus de moi, au-dessus de nous, et personne n'entend rien à ce que je dis. Flûte. Je reprends mon courage à deux mains et je recommence ma phrase. Pascal, alors je voulais dire Pascal, je voulais lui dire un truc très carré. Pascal, quand tu vas mourir, où est-ce que tu seras ? Je voulais lui dire ça. Alors la deuxième fois, je prends mon courage à deux mains, puis je lui ai dit Pascal. Et là, le tissu de ma chaise craque en deux et je m'affale de tous les deux. Je ne veux pas voir le diable partout, mais il était là. Une résistance. Et donc une troisième fois, je lui dis, Pascal, quand tu vas mourir, parce qu'on meurt tous, où est-ce que tu seras ? Tu sais, nous, on a une espérance de la vie éternelle. Une espérance qui transforme la vie. Et ma sœur... Mais il y a mon beau-frère, à 2-3 mètres de là, qui n'était pas chrétien, qui vient me voir après et qui me dit, tu sais, moi je me suis converti il y a 2 ans en Amérique, suite au témoignage d'un ami chrétien. Et ma sœur a dit, bah ouais, maintenant je suis entouré, il y a mon frère qui est chrétien, ma sœur qui est chrétien, mes parents qui sont chrétiens, et maintenant mon mari est chrétien. Et ma sœur a résisté encore 2 ou 3 ans. Et après, elle s'est convertie. Elle s'est donnée à Jésus, non pas à cause de mon témoignage, je ne crois pas en tout cas, mais parce qu'elle a lu la parabole de la brebis perdue. Et elle s'est trouvée comme étant cette brebis perdue. Témoigner auprès de sa famille, pas toujours facile. Mais je vous encourage à essayer du moins, malgré l'adversaire. Le deuxième cercle, le travail. Pas non plus très facile, le milieu du travail. Yvonne, et je suis en contact avec le milieu du travail grâce à mon épouse qui travaille, elle, vraiment. Et quand on était à Orléans, elle était dans une entreprise high-tech, là, avec vraiment les syndicats, etc. Et elle a suivi une conférence chrétienne justement sur le travail. Et là, le conférencier a donné une bonne image. Imaginez-vous que vous arriviez, que vous êtes des ambassadeurs de Christ à votre travail et que vous arriviez au travail avec la grande voiture d'ambassadeur avec les petits drapeaux là sur le capot avant. Alors, elle avait une Peugeot 205 Junior. Ça faisait moins peut-être style, moins impressionnant. Mais je pense qu'elle a gardé cette image et elle va comme une ambassadrice, avec toute sa fragilité, tous ses moments de fatigue aussi, à son travail. Et j'aimerais citer ce que Mardoché dit à Esther, qui est en exil à Suse. Et on est parfois en exil dans le milieu de son travail ou dans le monde en général. Mais Esther, qui est encore hésitante, Mardoché va dire, qui sait si ce n'est pas pour cette occasion c'est-à-dire sauver les Juifs, si ce n'est pas pour cette occasion que tu es devenue reine du royaume de Perse? Et pour le milieu du travail, on pourrait se dire, qui sait si ce n'est pas pour cette occasion, entre parenthèses, d'être témoin de l'espérance de Jésus, que je suis à ce travail-là. Alors le travail se justifie aussi en lui-même. C'est aussi un ministère en tant que tel, le travail, l'activité dans la vie. Mais il y a aussi là un témoignage chrétien à apporter. Troisième cercle, la Samarie, ça pourrait être le voisinage, les amis, le coiffeur. Alors ce coiffeur, j'en reparle. Je le vois à chaque fois que je me fais couper les cheveux, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais dimanche dernier, après le culte, vous savez, sur la métamorphose, la transformation, je suis allé chercher le pain. Et là, sur la plage, qui je vois, enfin pas sur la plage, sur le bord de la plage, boulevard du Midi, qui je vois, enfin c'est lui qui m'apostrophe, « Ah, oh !» Il était là avec sa femme, il me présente, etc. Et puis, poussé par le Saint-Esprit ou Red Bull, je lui ai parlé de la prédication que je venais de donner. J'étais encore sous l'adrénaline, peut-être, sous le Saint-Esprit. Et on a eu un bon échange. Oui, je pense que le Seigneur permet des rencontres, c'est pas je, des rencontres fortuites, entre guillemets. Et puis, quatrième cercle, ce pourrait être la ville de Cannes et les inconnus d'une toute autre culture, les étrangers, les Hollandais, par exemple, les Américains. Mais je termine en parlant des Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. Il y a une aumônerie protestante qui va s'ouvrir pour ces Jeux Olympiques. Et la coprésidente du comité a cité acte 1, 8. Et voilà ce qu'elle dit. Au lieu de partir de la capitale, entre guillemets, vers les extrémités de la terre, nous voulons profiter de ce que les extrémités de la terre viennent à Paris dans notre capitale. Pour quoi faire? Pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et je trouvais que c'était bien dit, ça. Ils retiennent un sport dans le monde olympique pour illustrer ce qu'ils veulent faire. Ils ont choisi la course de relais, où les athlètes se passent le témoin, vous savez, le témoin de l'espérance, disent cette aumônerie protestante, être des passeurs d'espérance. Et voilà ce qu'ils disent encore, peut-être trop petit pour que vous puissiez lire. Cette image nous paraît pertinente en référence au témoignage si essentiel pour les chrétiens. Notre rôle est de contribuer à transmettre l'espérance du Christ pendant cet événement planétaire, d'être témoin de l'Évangile dans le respect de chacun. CQFD. Belle mission pour ce comité, mais c'est aussi la nôtre, dans les différents cercles excentriques autour de nous, en toute humilité, avec nos failles, avec nos fragilités, dans nos épreuves même. Et c'est peut-être d'ailleurs dans ces épreuves, dans nos failles, dans nos fragilités, que notre espérance est la plus manifeste et la plus parlante. Et donc, dans ses faiblesses, Jésus nous invite à être des passeurs d'espérance, à être des témoins de cette espérance en Jésus-Christ, chacun en particulier, mais aussi nous tous ensemble, en tant qu'Église. C'est notre projet d'Église, qui peut se décliner après de différentes façons, mais c'est notre projet d'Église d'être des passeurs d'espérance, d'être des témoins de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission possible, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acceptons-nous, acceptez-vous cette mission d'être des passeurs d'espérance par la grâce de Dieu et pour sa gloire.